Tip les kids.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h, vous êtes à l'écoute de Studio Zef sur 91.10. Une fois n'est pas coutume, on va faire un live dans la ZIC pour les kids. Ça c'est super, un petit live, une émission en direct, parce qu'on a l'habitude de la monter, cette émission-là. On extrait des morceaux de plusieurs CD que l'on a à notre disposition, et puis en général, c'est notre automate qui diffuse plein de musique aléatoirement parlant. Aujourd'hui, on a un invité qui va nous présenter plein de musique pour les kids. Bonjour Philippe.
Bonjour. Et effectivement, ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est plutôt de la musique pour les enfants, c'est-à-dire des gens qui font des chansons en pensant que leur public sera les enfants.
Oui, là, c'est vraiment de la chanson spécialisée.
Voilà,
de la musique spécialisée.
Les gens qui écrivent, écrivent en pensant écrire pour les enfants directement.
D'accord. C'est sympa.
Ouais, c'est sympa.
Alors, en même temps, on va pas dire ce que t'as choisi, c'est pas terrible.
Oui, des petits trucs un peu vieillots. Si tu veux que je revienne, il va falloir que tu dises que c'est génial.
C'est super génial.
Voilà, donc il est pas 16h30. Ce que vous venez d'entendre, c'est le générique et le début de la toute première émission de la ZIC pour les kids. On était en février 2009. C'était le tout début de la radio. On a donc entendu Sanji, et puis un petit peu le Philippe, là. Qui présentait l'émission. Qu'est-ce que c'était que cette émission qui démarrait? Donc c'est Sanji qui au départ m'a accompagné, et puis il y a eu d'autres personnes qui m'ont accompagné. Il y a eu William, il y a eu Guillaume, maintenant il y a Charles. Et toutes ces personnes-là sont réunies pour cette émission spéciale 10 ans qu'on avait annoncée au début de l'année. Donc bonjour à tous.
Bonjour.
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 Tout le monde est là. Donc le but, là, pendant pendant une heure, voilà.
Une émission d'un an,
ça commence bien. Ça va être de parler un petit peu de cette émission, comment vous avez vécu ça, comment vous avez, je pense, découvert un petit peu un monde que vous ne connaissiez pas forcément. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà des choses à dire ou...
Moi, j'ai un grand regret.
Ouais.
En 10 ans, il n'y a pas eu de Chantal Goya et de Henri Dess, il me semble.
Ah si, Henri Dess.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui. C'est Dorothée qu'il n'y a pas eu.
C'est vrai.
Mais on verra pourquoi plus tard. Il y a un petit son qui est là pour ça. Donc j'ai extrait un petit peu des sons des émissions, en tout cas des premières. Donc on aura des petits sons à écouter un petit peu. On a vu donc effectivement qu'il y avait plein de thèmes, puisque... La première émission, c'était une présentation, donc on a vu un petit peu, on a balayé un petit peu plein de choses. Puis après, je me suis dit que j'allais bien continuer cette émission en faisant un thème à chaque fois. Et il y a un thème qui revient régulièrement, c'est les animaux. Et donc, on va écouter la présentation de la première émission sur les animaux. Et voilà ce qu'on en disait à l'époque.
Donc aujourd'hui, c'est une thématique, tu as choisi une thématique.
Oui.
Ça, c'est
les animaux.
Ah, super.
Et alors, les animaux, il y a de quoi faire 5 ou 6 émissions si on veut, parce que c'est vraiment, quand on fait les chansons pour enfants, c'est un peu la tarte à la crème, quoi.
Tu veux dire qu'on pourra en faire 5, 6, ça veut dire pendant 5 ans, on aura une émission sur les animaux par an.
Oui, on peut le dire comme ça.
Je te remercie, quoi.
Je ne sais pas ce que j'avais l'intention de dire ni de faire, mais...
Chouette.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons dites pour enfants qui tournent autour de cette thématique.
Donc voilà, ça c'était la première année. Et la deuxième année, en fait, c'est ce qu'on a fait. On a refait une émission sur les animaux par an. Et donc la deuxième année, voilà ce qu'on avait et ce qu'on en disait.
Alors, tu sais quel thème tu vas aborder ?
Oui !
Ouais.
Alors aujourd'hui, le thème est... Eh bien, on va revenir sur un thème qu'on avait déjà vu l'année dernière et pour lequel on avait dit qu'il y avait tellement, tellement de chansons qui existaient dans ce thème-là qu'on lance... En boutade, on avait dit on peut peut-être s'en faire une par an. Je sais pas si on en fera une par an. En tout cas, on va en faire une deuxième, c'est sur les animaux.
Waouh, super.
Les animaux.
Alors, les animaux de toutes sortes ?
Alors, toutes sortes d'animaux, oui. Et puis, toutes sortes aussi d'ambiances musicales et toutes sortes de personnes qui chantent, voilà.
Donc voilà, effectivement, on en a fait une par an. Donc vous avez tous vécu
des jours avec des animaux. Ouais.
Même moi. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup d'émissions.
Moi, ce que je vais vous demander, c'est un petit peu donc comment vous avez vécu cette découverte de ce monde des chansons pour enfants.
Moi, je vais répondre. Ça m'a permis d'avoir une discothèque de musique pour enfants. Pour mes enfants, puisque entre-temps, je suis devenu papa et du coup, ça m'a permis de leur faire découvrir la musique pour enfants. avec des auteurs comme Christian Ferrari. Christian Ferrari. de mémoire, il devait y avoir Christian Ferrari aussi. Xavier Stubb, un petit peu.
Ouais.
Christian Ferrari. Roger Cactus. Et puis Christian Ferrari. Je crois qu'on a passé beaucoup de Christian Ferrari, en fait.
Ouais, quasiment à chaque fois.
Ce qui était plutôt bien.
Ouais, puis ça a permis aussi de découvrir la diversité de ce monde de la musique pour enfants. Et puis voir qu'il y a plein de choses intéressantes, y compris pour les adultes. J'ai pas d'enfants. Pas encore, du moins, mais je me souviens...
Méfie-toi, ça peut venir.
Des fois, ça vient plus vite qu'on ne croit.
Je me souviens d'amis techniciens son qui, eux, ont des enfants, que je croisais parfois et qui me disaient « Ah ouais, le matin, j'écoute... » Donc, ça passe le week-end pour les kids. Donc, c'était le matin. « Ah oui, j'écoute avec mes enfants telle musique. Est-ce que tu peux me rappeler tel titre ? Est-ce que tu... Celle-ci, elle est géniale, je vais lui faire écouter. Ou alors, j'en peux plus. Depuis que tu as passé ça, on la passe en boucle. Il ne veut pas lâcher le CD. » Donc, il y a aussi... voilà, ça faisait plaisir de savoir que les enfants pouvaient écouter Studio Zef, tendre une oreille et puis prendre du plaisir à écouter la radio. Parce que c'est vrai que je pense que sur d'autres fréquences, ils n'ont pas le même engouement. Et, voilà, on entend, sur Studio Zef, on entend des enfants dans les émissions qu'anime Charles aussi, mais on entend aussi de la musique pour eux.
Ben, on va écouter une chanson sur les animaux alors.
C'est parti.
Donc c'est Gérard Delahaye. C'est pas Christian Ferrari, je suis désolé. Gérard Delahaye qui nous chante Où est-ce qu'elle a pis ?
Où est-ce qu'elle a pis ? Elle est là-haut, tout là-haut. Blanche, bleu, noir, elle se balance. C'est vraiment un drôle d'oiseau. Fait son nid avec des branches en haut des arbres les plus hauts. Où est-ce qu'elle a pis ? Elle est là-haut, tout là-haut. T'as des boutons à tes manches, attention si ça brille trop. Tout ce qui brille, ça la démange, elle l'emporte dans son nid haut. Où est-ce qu'elle a pis ? Elle est là-haut, tout là-haut. Si tu sais grimper aux branches jusqu'à son nid tout en haut, tu trouveras, si t'as de la chance, des pièces, des clés, un couteau. Où est-ce qu'elle a pis ? Elle est là-haut, tout là-haut. Les anges, le bouvreuil et le moineau. Pour la pie, mon cœur balance. Pour la pie, je ne sais plus trop. Où est-ce que la pie, elle est là-haut, tout là-haut. Où est-ce que la pie, elle est là-haut, tout là-haut.
Donc c'était Gérard Delahaye, on entend bien que c'est un petit peu breton, voilà, musique, issue des musiques traditionnelles un petit peu, et chanson sur la pie. Où est-ce qu'elle a pie ? Moi j'aime bien celle-là, parce que ça, où est-ce qu'elle a pie, ça...
Et je crois que Philippe, t'es aussi amateur de musique folk, baltrade et tout ce genre de festivités, non ?
Au-delà de ça, il est musicien et je sais pas si t'as prévu dans ta playlist, mais de mémoire sur les émissions, il me semble que j'ai eu Philippe Vin avec ses élèves quelquefois.
Ouais, bah il y aura pas aujourd'hui, mais c'est vrai que ça existe.
Mais avec des chansons, moi je me souviens, qui mettaient le poil, quoi, parce que des fois c'était émouvant, hein, ces jeunes. Qui n'étaient pas forcément dans des situations faciles, qui s'exprimaient et qui chantaient avec tout ce qu'ils avaient.
C'est sûr que ce qu'on avait vu, ouais. Entre autres, c'est que quand on laisse les enfants s'exprimer et faire des chansons, on est loin de Dorothée Chantal Goya. C'est beaucoup moins lisse.
Mais pour revenir un peu sur la musique folle, c'est vrai que ça, c'est une découverte aussi dans la chanson pour enfants que j'ai eue avec Zik pour les kids. Les ours du Scorff, EDF, toutes ces musiques folk, mais pour enfants. Et c'était assez agréable à écouter.
Ben oui, on avait vu qu'il y avait un petit peu tous les styles. Il y avait de la balade, il y avait du rock, il y avait du blues, et même du classique. On a entendu des chansons sur lesquelles il y avait un quatuor à cordes derrière, avec Philippe Roussel, entre autres. Donc on a entendu, pour la deuxième mission sur les animaux, on entendait William.
Oui, c'est moi.
Oui, c'était exceptionnel à ce moment-là, sur la première année que tu parles, parce que tu étais plutôt la technique.
Oui.
Mais on parlait de toi. On venait d'écouter une chanson de Baby Boom qui parlait de la campagne, de la montagne et tout ça, et ça finissait par « La campagne, c'est des paysans ». Et donc on s'était beaucoup amusé là-dessus. Et donc toi, tu étais à la technique, on était avec Sanji. Donc on va écouter ce qu'on avait dit à ce moment-là sur la campagne et les paysans. La première année, c'était la cinquième émission.
C'était voilà. Donc...
Partie de campagne, c'était Baby Boom. Et donc la campagne, c'est des paysans.
Bah voilà.
Bah oui.
Bah oui. Mais on peut venir en vacances quand même aussi à la campagne, c'est possible.
Bah oui. Quand on est de Paris, la campagne, c'est des paysans.
Oh. C'est ce que tu te disais quand tu étais en région parisienne.
Bah voilà, quand j'étais parisienne, c'est ce que je disais. Ouais.
Et puis nous, on pensait aussi que ceux qui étaient à Paris, c'était des... Eh ben non, le gars.
Parisiens.
Des Parisiens.
Avec deux chiens.
Eh oui, chacun a son mot pour faire plaisir. William, c'est pas peine de rigoler, toi aussi, t'es très joue parisienne.
Donc, William, c'est pas la peine de rigoler. Hein.
Non, je ne rigole pas.
C'est pas la peine de se moquer de moi. Bon. Donc, dans les émissions, au départ, on a un petit peu parlé de ce que c'est que la chanson pour enfants, et entre autres, les chanteurs pour enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? On l'avait demandé aussi à d'autres personnes quand on a reçu des artistes en studio. C'était pendant la deuxième année, on avait parlé un petit peu de ça aussi. Les chanteurs pour enfants, qu'est-ce que c'est?
C'est un milieu quand même... On se représente toujours la chanson en général comme un milieu de requins, très méchant, impitoyable et tout ça. Et au moins la chanson jeune public, est-ce que j'en connais, c'est vraiment des amitiés plutôt. D'ailleurs, je crois que c'est aussi des amitiés parce que c'est le même genre de gens. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse mentir ou être faux devant un public d'enfants. Je crois que devant un public d'adultes, c'est pas difficile. C'est-à-dire, on prend sa guitare et on dit, au début du spectacle, on dit « Je suis extraordinairement heureux d'être à Blois ce soir ». Et tous les gens disent oh, « C'est un mec super parce qu'il est extraordinairement heureux d'être à Blois ce soir ». Et si on dit ça à des enfants, vraiment, ça les intéresse pas du tout, quoi. Ils savent pas... Mais il y en a, ils savent même pas demander une autre chanson à la fin d'un spectacle. Mmh. Moi, j'ai fait un truc il y a pas longtemps, enfin non, il y a 2-3 ans, c'était à Paris. On m'avait demandé de faire un truc parce que c'était la mort de Georges Brassens, c'est que j'habite dans le 14e où il habitait, donc la mairie avait fait quelque chose. Et alors, il y avait des enfants de 6e, le matin, disons que c'était les enfants plutôt du centre du 14e, si je peux dire, et l'après-midi, les enfants de la périphérie du 14e. Et à la fin du spectacle, ils ne savaient pas exprimer qu'ils voulaient que ça continue. Enfin, alors qu'ils auraient très bien su exprimer qu'ils voulaient que ça s'arrête, ça.
Oui,
très bien.
Ça, il n'y a pas de problème.
Et à la fin, je ne sais pas d'où c'est venu, mais ils se sont mis à dire « c'est trop bien, c'est trop bien ». Voilà. Ouais. Et il y avait 600-700 enfants qui disaient « c'est trop bien ». Et je trouvais ça vraiment... Enfin, là, on est sûr de la sincérité.
Voilà, ouais.
Donc, je pense que les collègues chanteurs, on a tous des attitudes à peu près semblables par rapport aux enfants. C'est pour ça qu'on est copains assez facilement.
Voilà, c'était donc Christian Ferrari qui nous parlait du monde des chanteurs pour enfants, avec des choses intéressantes qu'il raconte. Hein,
moi, je l'ai un peu vécu, puisque j'ai fait ou la technique, ou j'étais présent sur les moments où il y avait les artistes invités en studio. Et c'est vrai qu'on n'est jamais tombé sur un artiste désagréable et comment dire, prétentieux et ayant des exigences très particulières.
Bon, en même temps, je n'ai pas invité n'importe lesquels non plus, mais globalement, c'est vrai que c'est... C'est plus, oui, c'est effectivement les gens, ils font pas ça pour la gloire et pour le. Hein, parce que c'est quand même un milieu où quand ils ont vendu 500 disques, ils sont vachement contents, quoi.
C'est ça.
Après, il y a des exceptions.
Ouais, toujours.
Pense à Aldebert, par exemple, qui fait une espèce de. Maintenant, avec plein de stars qui viennent pas forcément de la musique pour enfants et qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, quand on va à Paris, on voit les affiches, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oui, en même temps, ce qu'il fait, c'est pas mal.
Ah, par contre, oui, musicalement, c'est super. Hein.
Alors, moi, j'ai un problème avec Aldebert.
Ah, voilà, on règle ses comptes.
Non, non. En fait, je suis allé le voir au Vinci quand il est venu l'an passé. Et en fait, il n'a pas un public d'enfants.
Ben non.
Parce qu'en fait, pour un enfant accompagné par le père, la mère, la grand-mère et le grand-père, quand tu regardes dans le public, il y a plus d'adultes au final que d'enfants. Et ceux qui s'amusent le plus, c'est les adultes. Parce qu'ils disent à leurs enfants, tu restes là, tu ne bouges pas, je vais danser. Mais sinon, ce qu'il fait, c'est super. Ça a été vraiment un agréable moment. Et justement, ouais. Quand...
Mais là, c'est pas de sa faute, ce truc-là.
Bah ouais, c'est ça. Quand on est allé voir Aldebert avec mes enfants, la semaine d'avant, on est allé voir un spectacle à taille humaine, un spectacle pour enfants à taille humaine. Et du coup, on a vu les deux penchants du spectacle pour enfants. Mmh. Le spectacle pour enfants, que je vais dire bricolé, mais très professionnel, c'est-à-dire fait par des gens qui sont encore complètement dans l'ombre. Et puis l'usine à gaz d'Aldebert, quoi, avec du gros son et compagnie, quoi.
Et alors Aldebert, il est bon, il a plutôt des trentenaires là, mais si
Merci
tu
Philippe.
Vois, si... non, mais si tu vois les publics qui amènent les enfants, par exemple, à Chantal Goya ou quoi, c'est ceux. C'est plutôt les grands-parents qui,
oui, ceux qui écoutaient,
voilà, et qui amènent et les parents amènent leurs enfants ou les grands-parents amènent leurs enfants pour retrouver ce que eux avaient vécu, ouais. et ça tourne en boucle, quoi. Les enfants sont contents parce qu'ils voient que leurs parents sont contents, quoi, en gros. Mais
je crois que François Gilazzaro aussi a un peu ce problème à cause de sa popularité, ouais. Avec
les garçons bouchés,
ouais. Voilà, Pigalle, ces différents groupes, on se retrouve avec des salles où il y a plus d'adultes que d'enfants. Alors bon, faut parfois savoir dire aux adultes, écoutez, c'est un spectacle pour enfants, un seul accompagnateur, ça suffira peut-être.
Et alors il y en a qui jouent de ça, qui font des spectacles pour anciens enfants.
Oui, ah bah je me souviens alors j'appelle ça Henri Dess Metal,
mais voilà, c'est ça.
C'est Henri Dess et
avec son fils. Son fils à la batterie.
Avec son fils à la batterie. Son fils, ouais, c'est son fils.
Comment il s'appelle? Et les deux, je sais plus comment.
Le nom est Zozo, un peu comme ignoble. Ça.
On en a passé dans une émission l'année dernière parce que tu m'en avais parlé.
Ouais, j'avais vu ça sur.
J'ai acheté le disque, je suis allé voir sur internet et c'est fabuleux de voir des gens de 30 ans parce que. Il rechante, il est sur scène avec les deux affreux là qui font de la musique métal. Il reprend exactement les chansons, mais lui, il est au milieu avec sa guitare classique. Là, il est là, tout droit, il bouge pas et il chante comme d'habitude. Et derrière, il y a un son métal avec les deux qui bougent dans tous les sens. Et dans la salle, alors là, c'était pas pour enfants, hein, c'était que des... Que des trentenaires qui sautent.
C'est à l'école. Le on apprend les bêtises.
C'est super.
Ah ouais, c'est super. C'est assez chouette à voir. Ouais.
Alors moi, j'ai vu un reportage sur ça. Il a bien dit qu'il avait accepté parce que c'était son fils derrière.
Bah, bien sûr.
Parce que sinon, c'est le genre de projet qu'il aurait totalement refusé.
Ah bah, bien sûr, oui, bah, c'est évident. C'est pas le style. Et il y a Anne Sylvestre qui a fait une chanson comme ça sur qui parle aux adultes qui ont été les enfants, et elle appelle ça les rescapés des fabulettes.
C'est joli.
Moi, je voulais dire deux petits mots sur Christian Ferrari, en fait. Tu sais, je me rappelle que c'était toi, William, qui devais faire la technique ce jour-là, de mémoire, ouais. Je pense que c'était toi, parce que je me rappelle surtout de rester un quart d'heure et puis après de faire autre chose. Mais je me rappelle d'un bonhomme, quand même, qu'on a imposé un petit peu dans le studio, tu te rappelles?
C'est peu de dire.
Je te rappelle, c'était... Et puis le midi aussi, surtout, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas vécu l'émission, tu l'avais vécu, mais je me rappelle surtout du midi avec... avec ce bonhomme anarchiste qui nous a fait
l'engagement.
Je l'ai envoyé quand même pas mal.
Oh, chouette. Et puis tout calme, hein.
Oui.
Ah bah, ouais.
Oui.
Mais qui dit des choses et qui... Voilà, qui s'est retrouvé là un peu par hasard, en fait. Il nous racontait... il était prof de français, et puis il avait fait pour que ses élèves accrochent un peu, il avait fait des trucs sur la chanson, et puis il avait monté, fait des chansons avec eux, et puis des spectacles. Et puis on lui avait demandé de continuer, de faire d'autres projets ailleurs, parce qu'on avait vu qu'il avait fait ça. Et petit à petit, il est devenu comme ça. Bah, puisqu'on parle de Christian Ferrari,
Justement, il était venu en studio et il nous avait chanté en direct une chanson. Hein, il avait amené la guitare et c'était un moment assez incroyable. Alors, on ne va pas tout écouter parce que la chanson fait plus de 10 minutes telle qu'il l'a fait. Il nous l'a faite comme il l'a fait sur scène.
Sur scène, oui. Ça, je m'en souviens.
Et pas du tout comme elle est sur le disque. C'est-à-dire qu'il racontait des trucs entre les couplets. Et c'est comme ça qu'il l'a fait sur scène. Et donc, il nous l'a fait comme ça en direct. Et on va écouter un petit bout de ça, parce que 10 minutes, ça ferait un sacré tunnel, mais voilà. Donc Christian Ferrari, et il nous chante « Gueule de vache ».
J'ai le droit d'en demander une, là ?
Vas-y, vas-y.
On avait parlé, avant l'émission, on avait discuté un petit peu, et puis il y avait « Gueule de vache », qui est quand même quelque chose de...
Qui dure 2 heures,
mais ouais.
Même on n'est pas obligé de la faire pendant 2 heures non plus.
Bah, en fait, c'est un petit. Ça, c'est vrai. Dans une colo, j'avais demandé au directeur, avant mon arrivée, si les enfants pouvaient faire des dessins. Parce que des fois, on perd beaucoup de temps à chercher un thème, alors que dans les dessins, on trouve des thèmes. Et il y a un petit garçon qui avait représenté donc un super-héros avec des cornes, des armes et tout ça jusqu'à la ceinture. Et de la ceinture jusqu'en bas, c'était une vache avec des mamelles et des sabots. Et je pense qu'il y a eu des dessins de fées avec un auteur de BD ou quelque chose comme ça. Mais le petit garçon, moi j'avais cru qu'il faisait ça pour rigoler. Il rigolait pas du tout. Pas du tout, du tout. Il était très sérieux. Et j'ai dit, mais c'est quoi ton dessin? Il a dit, c'est Gueule de vache. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est Gueule de vache? Et textuellement, il a dit ça. Il a dit, Gueule de vache, c'est un super-héros. Et s'il y a des méchants qui attaquent des gentils qui ne peuvent pas se défendre, Gueule de vache intervient. Il en met des coups de corne, des coups de mamelle, des coups de sabot. Et ils sont tous KO. Voilà. Et moi, ça m'a plu. Donc, on a fait des petits groupes. Et j'ai dit aux enfants, racontez-moi des histoires très, très tristes où il y a des méchants qui martyrisent des gentils. On fera le refrain tous ensemble. Et ça donnait les aventures de Gueule de vache, le super-héros. Qu'un tube dont j'ai du mal à me défaire, parce que quand je chante ça une fois aux enfants, ils veulent plus que ça. Et comme ça dure maintenant près d'une heure, quand je raconte tous les couplets horribles...
Et puis c'est triste, c'est triste.
Alors je peux te faire un petit morceau.
Un petit bout, ouais.
La première histoire, c'est une très très méchante maîtresse d'école, ceux qui m'ont raconté ça. Elle est directrice d'une école maternelle, a pris l'enfant le plus petit de 2 ans et demi, et lui tire les cheveux comme ça en arrière, ça fait très mal. Elle a une grande règle en fer à table sur ses petits doigts de 2 ans et demi, et en plus elle a des grands ongles qui enfoncent dans sa joue comme ça, peint en rouge, et elle tourne comme ça dans la joue, ça fait très mal.
Ouais, on devrait pas rire d'ailleurs.
Donc l'enfant est très malheureux, mais Gueule de vache va inter...
Viendre.
Oui, il y en a qui désinterviennent.
Et oui, oui. J'étais au spectacle.
Il y en a qui désintermarchaient, mais c'est pas un verbe. La maîtresse a battu le garçon et lui donne des punitions. Elle le tire en lui tenant les cheveux. L'enfant est très malheureux, 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 malheureux. Oh. Voilà. Là, on fait comme quand il y a des shows de Bruxelles. Quand Bon, faut savoir faire le cri du super. Parce que tous les super-héros ont un cri. Par exemple, quand Tarzan arrive, qu'est-ce que ça fait, Philippe? Bon, un genre de ça. Quand Gueule de vache arrive, c'est comme ça. Alors, on essaie. Écoutez. Écoutez. Gueule de vache intervient, ouais. Gueule de vache intervient, ouais. Et un grand coup de corne, de mamelle, de sabot. Gueule de vache intervient, ouais. Gueule de vache intervient, ouais. Il sauve les enfants, mais les méchants KO.
Ouf.
On arrête là où tu veux un deuxième couplet, ça.
Ouais.
Alors c'est un monsieur très très méchant. Il a pris un bâton grand comme ça et gros comme ça pour taper sur son bébé chien petit comme ça. Et en plus, il tape que sur la tête petite comme ça. Et en plus, il s'est enfermé dans la cave de l'immeuble pour pas que les voisins entendent les cris de cette pauvre bête qui va mourir. Mais Gueule de vache va intervenir. Je te le fais en résumé. Hein. Un homme très cruel avec un bâton dans la cave de sa maison. Tape sauvagement sur son petit chien. La pauvre bête n'y peut rien, n'y peut rien, n'y peut rien. Faut répéter. N'y peut rien, n'y peut rien. Shoot Bruxelles total. Écoutez. Je rappelle que c'est un super-héros, c'est plus fort que ça. Écoutez. Gueule de vache intervient, ouais. Gueule de vache intervient, ouais. Un grand coup de corne, de mamelle, de sabot.
Ouf. Et ça continue comme ça, parce qu'il y a quatre couplets, et il nous a fait l'intégrale, en fait. Il disait, je vais vous en faire un petit bout, mais... Alors effectivement, c'est vrai ce qu'il disait, hein. Il n'en a fait qu'un petit bout, hein. Il résumait en fait, parce que sur scène ça dure beaucoup plus longtemps. Mais enfin bon, voilà, c'était sympa, c'était bien sympa ce qu'il nous a fait. Tout à l'heure on a entendu donc, que William était à la technique, mais en fait après il n'a plus fait la technique, il a fait les émissions avec nous, et il y a une première émission où il faisait avec moi, et Sanji n'était pas là, et voilà comment ça avait été introduit.
Bien, bah, c'est exceptionnel, ce mois-ci, Sanji est puni. Voilà. Bonjour Philippe.
Voilà, faut dire qu'il a fait pas mal de bêtises le mois dernier, alors punis aussi.
Alors qui lui a infligé cette punition? C'est lui, je crois.
Lui tout seul. Donc voilà. Bah oui, t'étais pas là, t'as pas su. Mais donc t'étais puni.
Hein, oui, j'étais puni, certainement. J'étais souvent puni d'ailleurs.
Et donc pour une fois, voilà, t'étais là et t'as été obligé de parler dans le micro.
C'est ça.
Mais ça t'a plu.
Oui. Il n'y avait plus désagréable.
Et dans cette série de choses où William était là, William a donc découvert qu'on pouvait avoir des chansons de Noël où il n'y avait pas de gling-gling et de... Et où c'était...
Je suis quasiment sûr du titre que tu vas passer.
Bien sûr.
13 secondes de rap, alors.
Ouais.
Et puis on en rediscute après.
Puis on verra, ouais.
Petit papa.
Noël.
Et quand tu descendras
du ciel
avec des jouets par
milliers,
n'oublie pas mes petits
billets.
Alors mes billets, tu les mets dans mes souliers parce que sinon t'es...
Oh.
Si avec ça, le Père Noël, il se méfie pas.
Hein, n'oublie pas mes petits...
Souliers.
Non, billets.
Non, billets. Ouais. Mais justement, c'est
mais,
bien ça.
Mais mes billets, t'oublie pas de les mettre dans mes souliers,
voilà,
sinon...
Ouais. Hein, ouais, les souliers sont bien là, mais voilà, pas au moment,
oui,
où on les attend.
Voilà. C'est, voilà, j'aime bien ça, que ça décale, mais on est quand même dedans.
On est dedans, ouais. On se la remet, c'est 13 secondes, donc
on se la remet. On se la remet, je pense, ouais.
Petit papa.
Noël.
Et quand tu descendras
du ciel
avec des jouets par
milliers,
n'oublie pas mes petits
billets.
Alors mes billets, tu les mets dans mes souliers parce que sinon t'es...
Oh.
Voilà, hein.
Voilà, oui, moi ça me fait rire à chaque fois. Mais...
Et
je dois être tordu. Hein.
Et pour le coup, elle est courte, simple,
ouais,
efficace.
Elle dit bien ce qu'elle veut dire.
Voilà. Et si le Père Noël n'a pas compris ce qui lui restait à faire, je pense qu'il est... Je crois qu'il est comme ils le disent. Hein. Oui, pour le coup, elle est complètement décalée par rapport à tout ce qu'on a écouté depuis le début, celle-là. Voilà, oui.
Donc voilà, autant que je me souviens, on l'avait repassé encore une fois à la fin. Après s'être dit au revoir, on a dit bon, pour se dire au revoir.
Mais t'es assez vache quand même avec nous, Philippe, parce que tu nous imposais du direct de bonheur. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment, vraiment de bonheur.
Et oui, à l'époque, on les faisait en direct.
On les faisait en direct, ouais. Mm-hmm. Et donc, du coup, t'arrivais vraiment tôt. Bon, nous, en général, on était là aussi très tôt.
Mais, ouais, mais j'apportais les croissants.
Oui, oui, mais c'est vrai que t'étais vache avec nous. Hein, sur ces directs-là, on avait du mal à te suivre. Peut-être un petit peu au niveau du réveil. Voilà. Ou alors tu t'infligeais déjà la playlist dans la voiture, le temps de venir. T'étais chaud bouillant en arrivant. Non, mais c'est vrai que c'était plutôt comme ça.
Ouais, c'était dur.
Non.
Mon pauvre, non. pauvre Sanji.
Ouais, j'espère bien.
Et donc, à ce moment-là, William m'avait dit que bah, il s'attendait pas à ce qu'il avait entendu, pas celle-là, mais toutes les autres, qu'il s'attendait pas à voir des choses aussi différentes avec... bah oui, on peut faire... Vous pouvez réécouter d'ailleurs, il y en a qui sont sur le site, parce qu'on en fait régulièrement sur Noël, donc vous pouvez réécouter des émissions sur Noël, et vous verrez qu'effectivement, c'est pas forcément toujours avec le gling-gling du Père Noël et Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel. Voilà, comme dans tous les autres thèmes d'ailleurs, hein, avec des chansons qui parlent de choses différentes et avec des styles différents. Pour continuer, allez, une petite dernière pour William.
Après, je m'en vais.
Ouais, c'était après une chanson d'Anne Sylvestre. Dans ses chansons pour, il y avait une chanson pour attacher ses chaussures. Et on en avait parlé un petit peu après. Voilà.
Eh ben, tu vois, moi, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu un changement. C'est le jour où j'ai su fermer lacet. Je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans. Je savais enfin fermer lacet tout seul. Et 2 jours après, ma mère m'achetait des chaussures avec des velcro.
Bien sûr.
Ça a été l'horreur. Je savais enfin fermer lacet. Et tu sais, il y a eu cette mode avec ces chaussures.
Ah bah, c'est plus qu'une mode. Parce que maintenant, effectivement, les enfants, en général, à 7 ans, ils ne savent pas faire leur lacet parce qu'ils ont eu que des velcro jusqu'à...
Bah voilà.
Ils disent des scratchs.
Ouais, des scratchs, voilà. Scratch. Donc moi, je savais fermer lacet, j'étais fier. J'avais travaillé, je me souviens, tout un après-midi à faire ces fameuses boucles.
Voilà, ça y est, j'y arrive.
Entrelacer et tout. J'y arrive. Et ouais, la semaine qui suivait, j'avais des chaussures avec des scratchs. Classe, hein.
Ce qui montre que les chansons peuvent se démêler.
Parce que et les chansons... scratchs, non.
Les scratchs, non. Mais la chanson d'Anne Sylvestre, elle dit plus grand-chose maintenant aux enfants, parce qu'effectivement, hein, prendre la boucle, refaire l'autre, mettre le doigt pour que ça tienne et tout, bon, ça leur dit plus grand-chose, parce que c'est fini. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a reçu des tas de gens. On a entendu donc Christian Ferrari. On a reçu aussi Xavier Stubb. Et Xavier Stubb, lui, il nous a parlé un petit peu aussi de sa formation, parce qu'il avait fait le centre de formation des musiciens intervenants, qui est chargé de faire la formation professionnelle des gens qui vont intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, pour faire de la musique aux enfants. Donc, il explique ça, ce que c'est que cette formation du CFMI. Xavier Stubb.
Tu parlais de pédigré, moi je parlerai plus. Parcours, on va dire. J'imagine que Olélé, c'est éventuellement le passage par le CFMI.
Oui, 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 tout à fait. C'est le répertoire, comme voilà. On appelle ça. Une chanson du répertoire.
Alors, c'est quoi le CFMI?
Ben, le CFMI, c'est le centre de formation des musiciens intervenants en milieu scolaire. Et c'est une formation qui est accessible après un bac plus 2. Moi, j'étais en musicologie. Après mon bac, j'ai fait une fac de musico. Et je ne me destinais pas à l'enseignement. J'étais assez tôt, en tout cas, attiré par la petite enfance, on va dire, en tout cas, les maternelles et primaires, quoi, les 3-10 ans, c'est cette tranche-là. Et donc, ce CFMI me branchait bien pour avoir cette formation, ce bagage, et commencer à faire de la pédagogie avec les enfants, mais de la pédagogie autour de la musique, c'était vraiment, pour moi, parfait, parce que la musique, c'est quand même quelque chose qui me tient... Depuis très tôt, forcément. Voilà. Ça fait que j'ai fait pas mal d'interventions, de projets avec...
Ouais, c'est ça, le CFMI, le but, c'est de former des gens qui vont intervenir auprès de... Alors, plutôt au milieu scolaire.
Voilà.
Et qui vont intervenir pour faire de la musique aux enfants. C'est pas, on vient pas faire une intervention pour faire coucou... Regardez voilà. Comme je chante bien, c'est...
Ah oui, voilà, hein, c'est ça. Voilà, on n'intervient pas dans le but de faire un spectacle. Non, c'est un autre métier. C'est vraiment de la pédagogie de groupe.
Voilà.
Moi, j'adhère complètement à ça parce que, d'abord, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui parfois étaient les meilleurs dans cette discipline-là, alors qu'ils traînaient la patte dans le scolaire, et du coup ça leur sort un peu la tête de l'eau. En tout cas, ils reprennent un rôle dans le groupe, parfois ils reprennent confiance. Donc tout ça, moi j'adhère avec toutes ces disciplines, on va dire un peu parascolaires, et j'adhère avec la formation en question, qui est pour moi est très efficace. Si on avait ces formations-là dans différentes disciplines, ce serait certainement parfait, quoi.
Et voilà, on est allé au CCE, on ne peut pas s'empêcher de parler pédagogie. Hein, s'il y avait autre chose que le cours magistral, ça serait peut-être pas mal. Si on faisait des projets sur lesquels on fait des choses et on est obligé d'avoir forcément des savoirs et des savoir-faire, peut-être qu'on arriverait à apprendre mieux... On parlait d'Anne Sylvestre et on a un petit peu écouté Anne Sylvestre, mais on a surtout écouté Jacques Auronier, qui reprend les chansons d'Anne Sylvestre et qui les fait à sa mode à lui et qui les prend complètement, ce qui renouvelle complètement la chose. Et c'est, moi, je préfère nettement les chansons d'Anne Sylvestre quand elles sont chantées par Jacques Auronier. Et là, on va écouter Les yaourts à tout.
Incroyable, y a des ya-ya, y a des yaou, y a des yaourts à tout. Y a des ya-ya, y a des yaou, y a des yaourts à tout. Y a des yaourts à la fraise, On les mange bien à l'aise, des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Des yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, au lait de brebis. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la pêche et d'autres aux noyaux de pêche. Y'a des yaourts aux brugnons, nèfles et potirons. Des yaourts aux fruits sauvages, ceux qui vous mordent au passage. Et d'autres aux fruits du verger et qui sont sans danger. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Des yaourts à la tulipe qui sont sûrement anti-grippe. Et des yaourts aux cailloux qui font mal aux genoux. Il y a des yaourts à la sauge qui sont bons pour le pied gauche. D'autres à la tête de veau, c'est pour le cerveau. Il y a des ya-ya, il y a des yahoo, il y a des yaourts à tout. Il y a des ya-ya, il y a des yahoo, il y a des yaourts à tout. Il y a des ya-ya, il y a des yahoo, il y a des yaourts à tout. Il y a des ya-ya, il y a des yahoo, il y a des yaourts à tout. Des yaourts aux vers de terre qu'on mange avec un lance-pierre. À la bave d'escargot, c'est pour les costauds. Des yaourts aux crottes de bique qui éloignent les moustiques. Des yaourts aux pipi de chat contre le tabac. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yahoo, y'a des yaourts à tout. Et même en cherchant bien, on trouve des yaourts à rien. À rien.
Et voilà, yahoo! Ouais.
Incroyable. Et vive c'est les produits laitiers.
Et donc, ce que tu disais, c'est effectivement, c'est la vraie chanson avec la vraie mélodie et les vraies paroles. Il y a juste l'arrangement qui est différent.
Parce que les paroles sont mise en valeur avec cette façon de chanter, ça surprend.
Ben voilà, on n'imagine pas qu'elle avait écrit des trucs comme ça.
Non, mais chanter comme ça, je m'y attendais pas. Hein.
Ouais. et pourtant, pour enfants, pour adultes, on ne sait pas trop. Ça a été un des thèmes qu'on a abordé en parlant entre les chansons. Il y a un son numéro 12. Bien vu, qui nous parle de ça. Est-ce que c'est pour enfants? Est-ce que c'est pour adultes? Ben, qu'est-ce qu'on en disait?
Sympa, la musique, moi j'aime bien aussi.
Ben, hein, justement, c'est... j'allais te poser une question. Les deux premières, elles sont, que ce soit par les textes ou par la musique, elles sont vraiment adressées à des enfants. Mmh. Et celle-ci, le texte s'adresse à des enfants,
ouais.
Mais la musique, ça pourrait très bien être de la musique que les adultes écoutent.
Tout à fait.
Du reggae.
Oui, et puis un reggae, pas un reggae à Fadi, ou ça, c'est un vrai, là.
Ouais,
c'est pas,
un vrai reggae. C'est pas de la soupe.
C'est pas de l'imitation, c'est
voilà,
pas... De,
ouais.
Voilà, c'est un vrai, oui. Ouais. Ben, et pourtant, le groupe Autobus à Vapeur est un vrai groupe pour enfants. Quoi. C'est pas... Ils ont jamais dit qu'ils faisaient pour adultes. Quoi.
Mais ils font peut-être profiter les enfants de leurs influences musicales à eux.
Tout à fait.
D'adultes.
Voilà, ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on disait un petit peu aussi avec... on l'a dit avec Christian Ferrari, on l'a dit avec Xavier Stubb, je pense qu'on le redirait avec tous ces gens-là, en tout cas ceux qu'on écoute là,
ouais.
C'est des gens pour qui, oui, bien sûr, pour enfants, bien sûr, pour jeunes publics, mais enfin, avant tout, c'est de la chanson, et voilà. Et si c'est bon pour enfants, alors les parents qui viennent accompagner doivent y trouver leur compte aussi, quoi.
Et visiblement, les gens qui étaient avec moi pour faire l'émission, ils trouvaient leur compte des fois aussi.
Oui.
Juste, moi, je peux juste une petite remarque. Du coup, là, la remarque, c'était par rapport à la musique. Moi, je trouvais même qu'au niveau des thématiques, des fois abordées, on a fait il y a pas très longtemps une émission sur l'environnement, etc. Il y a quand même différents sens de lecture au niveau des textes. Alors, certes, ça s'adresse aux enfants, ils comprennent et ils savent de quoi on parle, mais aussi pour les adultes, des fois, il y a une couche supplémentaire et qui fait vraiment l'intérêt aussi de ces chansons-là.
Et on avait reçu un François Humbert, de Humbert et Moreau, des IM. Oui. Et il nous avait parlé aussi de ça, les adultes, les enfants. Voilà ce qu'il en disait, lui, François Humbert.
Nous, on est, c'est toujours des petits films aussi, hein, nos chansons. Et des films qui parlent en même temps à l'imaginaire et à l'inconscient, d'ailleurs, des adultes qu'on croit être. et des enfants qui sont souvent plus adultes que nous, quoi.
Et je ne sais plus qui est-ce qui disait, moi aussi c'est le cactus qui disait ça, on l'entendra peut-être tout à l'heure, où il disait que les enfants, faut pas les prendre pour des idiots, et effectivement, ils aiment bien qu'on les prenne pas pour des idiots en fait. François Humbert, il nous parlait justement par rapport au thème et aux choses comme ça, on était venu à parler... C'est quelque chose qui est revenu souvent avec les artistes. Et on en est venu à parler de Dorothée. Parce que Dorothée, ça a été un moment... elle avait un petit peu 80% du marché.
C'était la vedette. Hein.
C'était la vedette. Et donc, voilà ce que François Humbert, comment il a vécu ça, lui. On en avait déjà parlé, je crois, avec Christian Ferrari de Chantal Goya. Mais moi, j'avais rappelé quand même que... Enfin, c'était pas Chantal Goya, c'était plutôt Dorothée qui avait son émission. Ouais, bah et là, au début, elle a passé un petit peu d'autres gens. Et puis très rapidement, elle a passé elle et ses copains.
Mais nous, au début, on est passé chez Dorothée. Nous, on est passé beaucoup à Récréa 2, à... Comment ça s'appelait ? Discobus, Discopus, les visiteurs du mercredi. Mmh. Mais quand Dorothée était présentatrice, voilà, dès qu'elle est devenue chanteuse, elle a dit un jour, je ne veux plus jamais voir Humbert et Moreau, Steve Waring et consorts.
Voilà, ça a le mérite de la clarté. Et donc c'est là qu'on voit la différence entre ce que disait Christian Ferrari du milieu des chanteurs pour enfants, où on est tous copains parce qu'on fait tous le même métier, et on est là pour être avec les enfants, et puis ceux qui sont là pour faire du business, quoi.
En même temps, on voit où sont les hymnes, Ferrari, et on voit où est Dorothée aujourd'hui.
Mais elle a fait son beurre à un moment.
Oui, mais en fait, en l'espace d'une petite dizaine d'années, elle a fait son beurre et elle a disparu. Les autres sont là depuis une trentaine, quarantaine d'années.
Je ne suis pas sûr que ça ait disparu tant que ça. Quand on va dans les bacs, on trouve encore Chantal Goya et Dorothée. Et tout ce qu'on disait tout à l'heure, les parents et les grands-parents achètent pour leurs petits-enfants parce qu'ils connaissent que ça. Et c'est ce qui leur avait plu quand ils étaient petits.
Et en même temps, le modèle économique de Dorothée, Chantal Goya, ça dépend aussi d'une grosse industrie autour. Alors que là, on a affaire à des artisans, Christian Ferrat, etc. Et eux, ils peuvent, ils ont leur matière première et ils peuvent l'exploiter comme ça, sans dépendre de la télévision ou des grands médias aussi. Et c'est cette force-là qu'ils ont, eux, que n'ont plus Dorothée ou Chantal Goya aussi.
Moi, de mémoire, je fais une petite aparté. Je crois que tu allais piocher beaucoup dans la discothèque de la bibliothèque de Romo.
Absolument.
Et voilà, le service public, il était là pour ça. Mmh. Et justement, je pense que dans ces bacs-là, on trouvait assez facilement des artistes moins connus que les Dorothée et Chantal Goya.
Voilà, sauf que qui fréquente les médiathèques ?
Toi.
Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde pour en parler avec les personnes qui sont chargées de ces médiathèques. Ils ne voient pas grand monde et le monde qu'ils voient, c'est plutôt effectivement le mien, c'est-à-dire les enseignants, les animateurs, mais pas forcément le public qu'ils aimeraient toucher.
Ouais, ce qui est dommage parce que finalement, il y a un grand choix dans les bibliothèques de musique et on n'est pas obligé d'acheter, là, pour le coup. C'est ce qui a été un problème aussi pour les grosses maisons de disques pendant un moment qui faisaient un peu la guerre à tout ça. Parce que pour eux, c'était un peu injuste qu'on puisse emprunter quasi gratuitement les disques que eux s'acharnaient à vendre et à promouvoir tout le temps.
Et puis juste petit aparté, mais c'est vrai que le personnel des médiathèques est souvent à l'écoute des utilisateurs.
Qualifié.
Et avec une culture et des connaissances en musique tout à fait impressionnantes. Je pense à Mathias qui vient animer aussi des émissions sur cette antenne. Et c'est vrai que des fois on arrive, ah vous avez pas ce CD, ah oui attends on va regarder ensemble, on l'écoute ensemble, ah bah on va le commander. Et puis après quelques mois, bah il y a le CD qui est dans les bacs de la médiathèque et puis on peut l'écouter. Donc faut vraiment pas hésiter à aller dans ces médiathèques pour proposer des idées et découvrir plein de choses.
Moi ce que je dis souvent aussi, c'est que les gens qui bossent dans les médiathèques, ils adorent ça parce que sinon leur boulot se résume à remplir de la paperasse et ils n'ont pas fait le boulot pour ça, ils n'ont pas choisi le métier pour ça. Donc si vous allez les voir en disant voilà, je cherche quelque chose qui serait comme ci, comme ça, ils vont vous poser des questions et ils vont se faire plaisir et vous allez leur faire plaisir en faisant ça.
C'est comme une grande partie de blind test à l'année pour eux.
Alors, dans les gens qu'on avait reçus, il y avait aussi le Cactus, Roger Cactus.
Oui.
Hein Ça, c'était un petit peu le...
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Roger, puisque en fait, non seulement on avait fait l'émission avec lui ici, mais j'ai aussi fait la technique sur un spectacle qui avait été joué à Montoire. Et du coup, pareil, encore une fois, c'est un super type avec qui on a passé un moment plus qu'agréable.
Voilà, et on lui a demandé comment on devient chanteur pour enfants, et le Cactus, bah, il nous a répondu. Et alors, comment ça commence, justement? Comment on devient chanteur pour enfants? C'est un rêve d'enfant, c'est...
Alors, chanteur, oui, c'est un rêve d'enfant. Je ne pensais pas aller spécialement dans la chanson pour enfants. Il s'est trouvé, donc, que je travaillais avec Philippe Yvelin, à cette époque, avec qui on a formé ce duo. Je jouais de la guitare et je l'accompagnais sur scène, sur ses chansons pour adultes. Et on était instit tous les deux. Et totalement par hasard, on s'est retrouvés dans le même groupe scolaire. On avait vraiment la boucle à nous deux. Lui, il avait les petites sections maternelles, moi j'avais les CM2. Et du coup, on a commencé à avoir envie de faire de la musique avec les enfants. Et puis, on a monté des projets musicaux qui englobaient toutes les classes, quoi, de la petite section au CM2. On a fait un spectacle avec tout le groupe scolaire. On a fait l'année suivante un livre-disque. Et puis, un beau jour, on mangeait ensemble à la cantine avec ses collègues de maternelle. Et ils étaient furieux parce qu'ils venaient d'accueillir un spectacle à l'école qui était archi nul, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne me prononcerai pas. Et sa directrice nous dit comme ça, en rigolant, « Je suis sûr que vous pourriez faire mieux. Si vous voulez monter un spectacle, on vous le programme à la fin de l'année. » Et on s'est dit « chiche ». Et on est parti là-dessus. Philippe avait déjà écrit quelques chansons pour enfants. On en a refait quelques autres. On a vraiment fait ça avec des bouts de ficelle parce qu'on n'était pas... Bon, on savait faire de la musique, mais on a introduit toute une dimension théâtrale qu'on ne maîtrisait pas du tout à l'époque. Et on a monté un truc qu'on a fait à la fin de l'année. Ça a très bien marché. Et ça nous a donné envie de continuer. Donc, on s'est mis à prendre des cours de théâtre. On a retravaillé les chansons. On a pris un metteur en scène. On a réécrit complètement ce spectacle. Et puis, très vite, on s'est mis à mi-temps parce que ça nous plaisait beaucoup de faire ça et on avait besoin d'avoir du temps. Le spectacle pour enfants, c'est la journée qu'on joue, c'est pas le soir. Donc, il fallait avoir des journées de libre. On s'est mis à mi-temps. Et voilà, ça a dû durer 3-4 ans, Zip Company, avant que je ne vole de mes propres ailes.
Et donc, vous êtes passé au festival du Pré Saint-Gervais.
On est passé au fait un grand festival. C'était un des plus grands festivals de France à l'époque, le festival du Pré Saint-Gervais, sous un chapiteau.
Qui a duré une dizaine d'années.
Oui, on était en coup de cœur découverte ou un truc comme ça. On était tout jeunes. Hein, c'était vraiment.
Voilà. Et moi, à l'époque, j'étais parisien. C'est comme ça que j'ai la cassette.
Voilà. Un collector. Je ne savais même plus qu'elle existait, cette cassette-là, avec cette jaquette.
Donc voilà, ça démarre comme ça, un peu par hasard, quoi.
Pas complètement par hasard. En fait, mes deux activités principales se sont rejointes, quoi. Je faisais de la musique et j'étais enseignant. Bah, j'ai fini par faire de la musique pour les enfants.
Voilà, ouais. Il y en a pas mal, hein, qui ont commencé comme instit ou comme prof.
Oui, il faut connaître un peu le monde des enfants pour savoir se mettre à leur niveau, savoir leur parler d'une façon qui soit ni bêtifiante, ni trop compliquée.
Ça, c'est un petit peu l'écueil quand on fait les spectacles, pour que ce soit de la musique ou autre chose. Faut pas être trop gnangnan parce que ça sert à rien.
Oui, il faut pouvoir se mettre au niveau des enfants sans les prendre pour des crétins non plus, quoi.
Voilà. Et ils aiment bien qu'on les prenne pas pour des crétins, en fait. Bah ouais. Hein.
Je me rappelle quand même de lui, de lui et Xavier aussi, Stub. Je me rappelle aussi qu'on... À l'époque, on faisait des doublettes quand même, puisqu'ils venaient dans le studio, puis après ils faisaient des concerts, ils enchaînaient derrière les concerts. Quoi.
Ouais.
Ça, c'était chouette aussi, premier mixtère avec Stub, 800 gamins, c'était 32 classes quand même, c'était pas mal. Ouais. Je me rappelle qu'on faisait quand même des... C'était chouette pour eux, quoi, de jouer devant 800 gamins à Blois, tu vois, c'est pas ça.
Moi, je me souviens de placer les gamins dans le chapiteau, c'était un truc de dingue.
C'est pas Stub qui m'a le plus marqué, parce que Stub, en fait, on le connaissait déjà à l'époque. Mais Roger, je me rappelle d'un vrai show. C'est une question de goût aussi, quoi, tu vois, voilà. J'avais été plus dans la découverte avec Roger, je me rappelle vraiment d'un type qui cachait bien son jeu aussi, comme ça, avec ses chansons pour enfants. Il y avait double lecture à chaque fois dans les chansons pour enfants.
Eh ben, on va écouter justement du Cactus avec sa chanson, celle qui est un peu
quand on me parle de Roger Cactus, c'est celle-là qui me vient, c'est « Je hais les enfants ». Discuté avec lui après avoir passé cette chanson et alors lui ce qu'il en disait c'est que éventuellement il y avait quelques adultes qui trouvaient que c'était pas terrible et que quand même dire ça, par contre les enfants eux, ça leur posait aucun problème parce que ils voyaient bien que c'était du second degré et qu'il n'y avait aucun problème avec ça, comme quoi les enfants sont des fois plus intéressants que les adultes.
Peut-être que c'est des adultes qui n'aimaient pas Trust aussi, parce que y a une bonne inspiration.
Alors, le truc que les gens n'ont jamais eu pendant 10 ans, c'est Philippe qui chante pendant qu'on écoute le morceau. Parce que souvent, ça, c'était ça.
Qui tapote sur la table.
Qui connaît parfaitement les paroles et qui les chante à tue-tête, voire parfois.
c'est vrai qu'il y a ça.
Il était à deux doigts d'être sur la table, là, d'ailleurs, à l'instant. Hein, ça prend l'air et tout.
Il a déchiré sa chemise et...
Du coup, t'es venu avec ta guitare ou pas ?
Non, je suis pas venu avec la guitare.
C'est dommage. Ouais, t'aurais pu nous en faire une à nous.
Pour les 20 ans.
Il y en a un autre qu'on avait reçu, c'est Abel. Et Abel, je lui avais demandé s'il avait des références sur les chansons pour enfants avant de lui en faire. Et ben, comme les autres, il avait répondu. Avant de te lancer là-dedans, est-ce que t'avais des références, toi, de chanteurs pour enfants ?
Ah bah moi j'ai été élevé à Henri Dess, mais il y en avait un que j'aimais beaucoup, c'était Jackie Galou. Il y avait Steve Waring, que j'écoute encore un peu avec ma fille. J'avais des chansons de Bourvil qui étaient super. Si, le plus grand, celui que j'écoutais, j'adorais, c'était Traîné. Et c'était pas forcément une chanson pour enfants, hein, mais je me souviens, il y avait L'épicière est une sorcière. Ça, c'est une chanson pour enfants. Il y avait donc l'épicière, il y avait... Lui, il avait un truc qui était vachement sympa, c'était... déjà, c'était très jazzy, donc ça soulignait, c'était super. Et en même temps, il y avait des... une sorte de gymnastique des mots, le débit de l'eau, et donc voilà, on essayait comme Bobby Lapointe aussi, Bobby Lapointe, mais bon, Bobby Lapointe n'était pas en rythme.
Toi, en tant qu'adulte qui allait faire des animations, est-ce que tu avais des références par rapport à ça ou pas du tout? T'étais vraiment sûr? C'est comme ce que tu disais sur la musique.
Et puis, quand j'ai commencé les ateliers d'habit musical, il fallait que je fasse des chansons pour les enfants. Alors les enfants, ils arrivaient avec 40 chansons, ils en connaissaient plein, le petit lutin, le petit machin, le lapin, le truc, tout ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils les connaissaient tous par cœur, et moi, j'en connaissais aucune. Et il fallait que je leur apprenne des chansons. C'était pas eux qui devaient m'apprendre, c'est moi qui devais leur apprendre des chansons. Donc, je partais d'une sorte de d'un petit air. Hop, je changeais les paroles, je faisais un truc avec une tortue plutôt qu'un petit lapin, et puis je leur montrais. Puis finalement, j'improvisais un peu avec eux, je jouais aussi, je l'avais musical, c'était vraiment ça, on essayait un peu de faire un truc.
Voilà, Abel qui aussi a fait le CFMI comme Xavier Stubb, et qui donc a fait des animations sans connaître au départ trop de chansons, et qui s'est obligé à en inventer pour pouvoir les apprendre aux enfants. Puisque c'était, comme il dit, c'est lui qui devait les apprendre des chansons aux enfants et pas le contraire. L'émission, ça a été aussi l'occasion de découvrir des gens plus actuels, et parmi ceux que j'ai découverts, effectivement, la médiathèque de Romorantin, parce que je parlais de la discothèque de la médiathèque de Romo, mais j'en ai une petite aussi. Mais là, récemment, depuis 2-3 ans, là, on l'a passé pas mal, et j'aimerais bien qu'on le réécoute. C'est Henri Godon, et qui nous parle de trafic rural avec un dernier couplet qui me plaît beaucoup.
J'habite dans un village, y a pas de trafic qui passe dans rue, toujours les mêmes visages, toujours les mêmes qui me saluent, et à 8h15, premier tracteur qui passe, et à 9h20, v'là du pas qui revient. Ce n'est pas comme à la ville où personne n'en voit la main. Nous c'est pas difficile, tout le monde est un cousin. Et à 11h15, il y a un 4 roues qui passe. Et à 12h20, v'là du pas qui revient. Y a pas beaucoup d'action qui se passe dans les parages, mais y a pas de pollution qui fait de faux nuages. Et à 2h15, y a un petit chien qui passe. Et à 3h20, v'là du pas qui revient. Chez nous, y'a pas de boulevard, y'a pas de trafic, pas de magasin, mais il passe des renards, des chats, des poules et des lapins. Et à 4h15, y'a le facteur qui passe. Et à 5h20, il se passe rien. J'écris cette chanson au son de la nature. J'entends les wawarons et les cigales qui murmurent. Et à 7h, il passe une moufette. Et à 20h, ça pue jusqu'au lendemain.
Voilà, le trafic rural avec la moufette qui passe. On va se quitter, ça fait une heure. C'était l'émission des 10 ans où on a reparlé un petit peu. Je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais moi, c'était sympa de retrouver les gens avec qui j'ai fait les émissions. Ouais. Et de reparler de tout ça. Pour terminer, on va écouter un son. C'est Xavier Stubb, Quand on s'est quitté, qui nous a fait un petit peu le résumé de quelque chose qui m'a fait plaisir à entendre, en tout cas.
Juste avant de se quitter, je voulais te remercier aussi pour toutes ces découvertes et puis aussi pour le rayonnement que tu as avec la musique pour enfants sur Blois, parce que c'est vrai, les gens écoutent cette émission. Je dînais encore avec ma maman hier qui me disait, ah oui, moi le samedi matin je vais à la gym, dans la voiture j'écoute cette chanson, et puis à chaque fois je connais les refrains, donc je les chante toute seule dans ma voiture. Voilà. Et puis il y a Clémentine qui te passe les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qui était volontaire dans la saison 2015-2016, il me semble, et qui aujourd'hui travaille à Marseille et est dans l'organisation d'un festival qui s'appelle Tous en Son, et c'est un festival jeunesse. Il y a Aldebert, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le parrain. Et puis, il y a aussi Pascal Parizeau, qui fait sa nouvelle création, Mort de rire. Voilà. Y a plein de théâtre jeunesse et aussi de la chanson. Donc, et elle m'a envoyé un petit message pour te dire qu'elle pensait à toi et que si tu voulais venir, fin mars, profites-tu du soleil à Marseille, et ben, tu étais le bienvenu. Donc voilà.
Bah, très bien, merci. Et donc, on va écouter Xavier Stubb, qui, à la fin de l'émission, nous parle un petit peu de comment il a vécu l'émission et quelque chose qui m'a bien fait plaisir.
Et on se retrouve le mois prochain.
Et on se retrouve le mois prochain pour une émission
spéciale animaux, non, Philippe ?
Pas impossible. Voilà, on va se dire au revoir. Moi, j'ai trouvé ça bien sympa. J'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi.
Ouais, merci beaucoup. Puis... C'est très sympa. On a le temps de parler dans votre émission. J'ai beaucoup plus l'habitude aux émissions où il ne faut pas oublier de dire 3-4 trucs dans les 10 minutes qu'on a parce que sinon, c'est trop tard. Non, c'est bien de pouvoir se poser qu'il y ait encore des endroits comme ça, on a le temps de vivre.
La vie pour les kids.